Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci d'avoir choisi les fréquences des radios partenaires de Studio Tamani. Il est 18h à Bourem Inali, le titre de cette édition. Le Premier ministre général de division, Abdoulaye Meïga, a rencontré ce matin les hommes de Meïga à la maison de la presse du Mali. Les échanges ont porté sur les défis actuels de la presse malienne, dont l'aide à la presse et la révision des textes. Acquitte de la formation des sages-femmes aujourd'hui au Mali, en marche des états généraux de la profession des sages-femmes tenus hier, la rédaction s'est intéressée au sujet. À Bourem, les populations dénoncent la hausse des prix des denrées de première nécessité. Il s'agit entre autres du riz à 10 000 et de la farine. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant avec Imran Akilo Maïga, la mise en onde à Diaratou Traoré. Je le disais dans le titre, la maison de la presse du Mali a reçu ce matin la visite du chef du gouvernement, une occasion mise à profit pour mettre les autorités au parfum des défis actuels de la presse malienne, mais surtout réclamer l'aide à la presse et la révision des textes. Des doléances bien prises en compte par le général de division Abdoulaye Meïga. Notre reporter Moumine Sendebous a assisté à la rencontre.
Il est 10h passées d'une dizaine de minutes, le Premier ministre marque son entrée dans la salle. Le général de division Abdoulaye Meïga était habillé d'un boubou bleu ciel et d'un bonnet blanc sale. À l'entame de la cérémonie, le président de la maison de la presse, Bandjougou Danté, a souhaité la bienvenue à l'hôte. Son discours a tourné autour de trois axes. Il s'agit de la liberté de la presse, l'aide à la presse et la situation de Djoliba TV.
Monsieur le Premier ministre, nous attendons de vous les conditions de la création d'un espace médiatique assaini, favorable à la liberté d'expression et une aide spéciale conséquente pour la presse malienne. En ce qui concerne l'affaire Djoliba, en toute responsabilité, je présente au nom de la Maison de la Presse du Mali nos excuses aux autorités burkinabées.
Un geste bien apprécié par le chef du gouvernement. Le patron de la primature, général de division Abdoulaye Meïga, invite toutefois les hommes des médias à l'autorégulation et à plus de professionnalisme.
J'ai entendu beaucoup d'indicateurs que vous avez relevés. Quand les enlèvements et les assassinats concernent également les élus des collectivités territoriales, mais ça concerne surtout et avant tout forces de défense et de sécurité. Concernant la fermeture des médias, on est en démocratie. Tous ces cas de fermeture sont opérés à partir du respect d'un certain nombre de textes législatifs et réglementaires. Mais les recours, bien entendu, existent toujours. Mais je souhaiterais quand même qu'on soit également équilibré lorsqu'on amène des indicateurs.
Cette cérémonie s'est clôturée par une série de questions-réponses. Comme doléance, les professionnels du média ont mis l'accent sur la problématique des délestages, la sécurisation des stations de radio et de télévision dans les zones en proie à l'insécurité et l'assainissement du secteur.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X anciennement Twitter. Les états généraux sur la profession de sage-femme ont débuté ce mercredi à Bamako. À la faveur de cette rencontre, la rédaction s'est intéressée à la formation des sages-femmes aujourd'hui au Mali. De nombreuses écoles de santé forment des sages-femmes comme d'autres spécialités. Mais quelle est la qualité de cette formation? Les sages-femmes maîtrisent-elles aujourd'hui leur domaine? Comment la population apprécie-t-elle leur travail? Deux éléments de réponse dans ce reportage de Omar Waigalo.
Docteur Amadou Garbassissé est le promoteur de l'école de santé Bouctou. Selon lui, plusieurs modules sont dispensés aux élèves faisant les études de sages-femmes. Il ajoute que la formation s'est faite à deux étapes.
Nous formons effectivement des sages-femmes d'État. La formation de 3 ans. Les modules, il y a un peu de tout. Il y a l'anatomie, la physiologie, il faut faire la gynécologie. La formation, elle est théorique, mais aussi elle est pratique.
Ces propos sont confirmés par les étudiantes. Elles attestent que les formations sont de qualité car elles combinent la théorie et la pratique dans les centres de santé.
On apprend beaucoup de modules. On a fait l'anatomie, la physiologie, l'obstétrique, l'hygiène, la sémiologie médicale et chirurgicale.
La formation, c'est très cool, c'est compatible aussi. Souvent, on fait des pratiques.
La plupart font des stages au CESCOM, mais la deuxième année, on va nous orienter dans les hôpitaux.
De son côté, la population estime que le rôle des sages-femmes est capital, surtout lors du suivi des grossesses. Cependant, certains déplorent le fait que les jeunes sont de plus en plus nombreuses dans ce domaine.
Leur soutien est de taille. Elles participent à tous les soins prodigués ici. Lors des CPN et des accouchements, elles sont présentes. Et après les accouchements, elles procèdent à des contrôles. C'est des bonnes praticiennes, mais elles sont très jeunes. Pendant les gardes, elles doivent être assistées.
Pour mieux réglementer le travail des sages-femmes, les états généraux de la profession des sages-femmes ont débuté hier à Bamako.
La phase 2 du projet alternative redevable pour lutter contre l'extrémisme radical parlé a été lancée hier mercredi à Bamako. Objectif, renforcer les capacités des acteurs clés à travers des formations adaptées sur la prévention et l'extrémisme violent au Mali. Il est mis en œuvre par Think Peace en partenariat avec le secrétariat permanent de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali. Ce projet cible les jeunes et les femmes des regroupements religieux et des organisations de la société civile dans ces zones d'intervention. Il est financé par PNUD. Reportage d'Issa Tagara.
Cette deuxième phase du projet Parler renforcera la résilience des communautés à travers la promotion des messages de paix et de tolérance, tout en consolidant les acquis de la première phase. Abdou Kola Bokoum, coordinateur national de Think Peace.
Le projet Parler phase 2 vise à renforcer les acquis de la phase 1 et outiller les acteurs et actrices locaux afin de prévenir et de réduire l'expansion de l'extrémisme violent au Mali à travers une nouvelle approche.
Pour le secrétaire permanent de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali, Djoubeirou Oumarou Diallo, les jeunes et les femmes ciblées seront outillées pour lutter contre l'extrémisme violent à Bla, Nara, Ségou, Koutchala et Yoroso.
C'est vous-même, les leaders religieux, qui vous rendez auprès de vos pères. Vous pouvez choisir des mots plus significatifs, les pratiques de notre société, les pratiques religieuses, pour expliquer à nos communautés que ce phénomène n'a rien à voir avec notre religion. Parce que vous ne verrez aucune religion qui prend la violence.
A rappelé que ce projet qui prend fin en mars 2025 s'inscrit dans la recherche des solutions durables au phénomène de l'extrémisme violent au Mali.
Direction Bourem, où les prix prix des céréales est de nouveau en hausse de 225 000 francs. Le sac de 50 kg de riz d'Iré passe à 27 500 francs CFA. Le sac de 50 kg de mil CD à 22 500 francs CFA contre 8 500. La farine et le riz padi se font rares sur le marché. Ces prix sont au-dessus de la bourse de la population locale. Selon des locale. Cette situation s'explique par l'insécurité et l'accès difficile des voies de transport à cause de la montée du fleuve Niger.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali URTEL, financé par l'Union européenne, les gouvernements du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Dans notre dossier d'aujourd'hui, nous allons parler de corruption. La corruption est une réalité dans plusieurs secteurs privés et publics. Des actions de sensibilisation sont menées par des associations et les autorités pour mettre fin à la pratique. Pour autant, la forme la plus répandue, qui est la petite corruption, passe souvent inaperçue. Et qu'est-ce que la petite corruption? Comment est-elle vue par les populations? Que prévoit la loi? Des éléments de réponse dans ce dossier de la semaine réalisé par Adama Madou Haïdara.
La petite corruption peut se présenter sous deux formes. On en sait plus avec Ibrahim Ben Mamata, juriste.
Petite corruption active, ça c'est dans le cas où c'est l'employeur ou bien le fonctionnaire qui sollicite de la personne qui vient dans son service quelque chose pour faire le travail pour lequel il est payé. On parle de corruption passive dans le cas où l'usager du service public ou privé propose quelque chose à l'employé ou au fonctionnaire pour un service.
Au Mali, on le dit couramment, avoir des bras longs est un atout pour parler ainsi des relations. Et la population bien consciente de son acte s'y prête quand même.
Effectivement, dans les services, on se rend entre nous amis, parents et frères.
Une fois, on m'a arrêté pour une vignette, ça m'a choqué, j'ai payé 1000 francs. Mais après, j'ai réfléchi, je me dis que vraiment, c'est pas normal.
J'ai même une fois payé 5000 francs pour avoir ma carte d'identité. C'est de la corruption.
Pourtant, cette petite corruption est opprimée par le code pénal malien à travers les articles 120 et 123, comme le souligne ici Ibrahim Ben Mamata.
Et la peine de la corruption varie selon les registres. S'agissant des fonctionnaires, elle peut être de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Du secteur privé, c'est de 2 à 5 ans.
Sur le plan économique, cette pratique n'est pas sans conséquences. Selon l'économiste Abdoulkarim Diamoutene, la petite corruption, de par son élargissement, a plus d'impact négatif.
Le niveau de pauvreté au Mali, qui théoriquement est entre 40 et 50 % de la population qui est censée être pauvre. Et donc cette corruption-là, elle ne fait qu'aggraver la pauvreté de la population. Les gens ont tendance à ignorer et puis surtout quand on voit un peu les rapports, et c'est cette petite corruption-là qui concerne un peu la majorité de la population malienne.
L'association de lutte contre la corruption et la délinquance financière condamne la corruption sur toutes ses formes. Son président Moussa Touré appelle à un éveil de conscience.
Ce sont des pratiques que nous dénonçons. Évidemment, demander aux citoyens de refuser cette corruption ou de la dénoncer. Tant qu'on ne va pas la dénoncer, il va continuer à perdurer.
Plusieurs mesures ont été prises pour mettre fin à cette pratique qui continue malgré tout.
Ainsi se referme cette édition qui vous a été présentée par Imirana Kilomega. Mais avant, nous recevons Sekou Gadiego pour l'introduction du Grand Dialogue. Sekou, bonsoir. De quel sujet sera question ce soir?
Quelle solution au phénomène de la corruption au Mali? C'est le thème du débat d'aujourd'hui et c'est dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Nos invités sont Baba Boubacar Keïta, secrétaire général de la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, Aboubakrine Ag Aklini, secrétaire à l'organisation de la Coalition nationale publiée, ce que vous payez, et Abdoulaye Aziz Kone, juriste chercheur.
Merci et bon débat. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À ce jour, le Mali n'enregistre qu'un cas de poliomyélite selon les services de santé. La dernière campagne de vaccination des enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite a pris fin le 27 novembre 2024. Selon le Centre national d'immunisation, structure chargée de programmes de vaccination au Mali, plus de 7 225 000 enfants sur toute l'étendue du territoire national étaient concernés. Initiée par le ministère de la Santé et du Développement social, l'opération fait face à des résistances chez certains patients. Dans le magazine Tous les enfants du jour, nous faisons le bilan de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au Mali. C'est une réalisation de Ali Cissé.
Cette campagne dirigée contre la poliomyélite au Mali a touché plusieurs localités du pays. Comme en témoignent ses parents interrogés à Sikasso, Banjangara, Bankas, Bafoulabé, Mopti et Ségou.
Mes trois enfants ont été bien sûr vaccinés contre la poliomyélite.
Mes enfants n'ont pas été vaccinés. J'ai eu peur.
Je suis au courant de la campagne de vaccination, mais je n'ai pas d'enfants de la tranche d'âge concernés à la maison.
Le cas de poliomyélite, c'est rare dans la région de Mopti.
Tous mes enfants ont été vaccinés.
Nous les faisons et nous y croyons.
Les enfants ont reçu leur dose.
J'avais vraiment très peur parce que j'ai appris que le vaccin rend les enfants stériles.
Le scepticisme vaccinal chez certains parents est bien connu de l'Organisation mondiale de la santé. C'est pourquoi Dr Etienne Dambélé, expert en éradication de la polio au sein de la Division mondiale de l'immunisation, table sur la sensibilisation.
Les parents sont sceptiques à la vaccination. Nous voudrons trouver un moyen d'expliquer à ces parents que la vaccination préserve nos enfants. Il y a de ces zones difficiles à atteindre. Mais nous sommes en train de mettre sur place des agents locaux pour aider les enfants à être vaccinés. Certains agents de santé pensent que la poliomyélite, c'est un cas qui est déjà dépassé. Il y a des cas qui existent dans les pays voisins et aussi le Mali n'est pas épargné. Nous avons cette assurance qu'ensemble, nous pourrons éradiquer la polio.
Malgré des difficultés à atteindre certaines zones pour des raisons de sécurité, le Centre national d'immunisation au Mali assure que la campagne a été un succès. Docteur Ibrahima Diarra, directeur du Centre national d'immunisation.
Dans les situations où les zones sont en sécurité complète, la vaccination de routine ne marche pas tellement. Eu égard, bien entendu, à cette insécurité, au braquage, aux enlèvements, les enfants ne sont pas tellement protégés. Mais il était attendu de vacciner 7 224 224 enfants de 0 à 59 mois. Et vous voyez déjà, nous avons vacciné 7 889 299 enfants, soit une couverture de 109,25.
Docteur Ibrahima Diarra est aussi responsable du programme élargi de vaccination au niveau national. Il affirme que cette campagne de prévention qui est menée sur l'ensemble du territoire national porte bien ses fruits. En 4 ans, le Mali est passé de 56 cas de poliomyélite en un seul cas, dit-il.
Ce n'est pas seulement les enfants maliens qui sont concernés. Depuis 2020 jusqu'à maintenant, vous voyez, de 56 cas au départ, on est revenu à un seul cas en début d'année 2024 et jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore recensé des cas. La maladie n'a pas de frontières, donc on est obligé souvent de prendre les enfants venant d'ailleurs. Les gens vont s'étonner pourquoi on a des couvertures de 109 et quelques pourcents. C'est parce que, vraiment, il est important de vacciner tous les enfants, je vais dire, de cette tranche d'âge-là.
Les centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC, ont le statut d'agence du département de la santé et des services sociaux des États-Unis. Cette agence est engagée dans l'éradication de la maladie dans les régions sud et centre de l'Afrique. Elle est focalisée sur le renforcement des systèmes de santé dans les pays touchés par la poliomyélite. Son directeur pays, Dr Cyrine Ndiaye, se dit satisfait des résultats, malgré le taux de couverture.
Il y a aussi les systèmes d'information de santé
qu'on puisse communiquer à temps aux décideurs pour qu'on puisse prendre des décisions. Je suis content de ce qui se fait maintenant, mais il y a les défis. En ce qui concerne la polio, on fait beaucoup d'efforts de sensibilisation, mais le taux de vaccination reste toujours faible. Je dirais aussi que je suis très optimiste parce que moi, je trouve le pays a des ressources humaines vraiment extraordinaires avec volonté de travailler.
Enfin, les autorités sanitaires au Mali exhortent les parents à suivre correctement la vaccination de routine des enfants, car selon elles, c'est le moyen de garantir à l'enfant une immunité.